chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici au cœur de l'été, en ce 20 juillet, avec un sujet qui nous emmène au sud de la Bourgogne. Alors que le succès du film Sacré-Cœur de Steven et Sabrina Gunnel conduit à Paray-le-Monial de nombreux pèlerins, ce dont on ne peut que se réjouir, une facette essentielle, ancrée dans les siècles, mérite d'être remise en valeur, la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Bonjour Geneviève Vigne, vous êtes coordinatrice depuis près de 20 ans au siège international de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial et auteure de « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » chez Via Romana en 2024. Merci Geneviève de donner aux auditeurs de Radio Courtoisie de votre temps pour leur faire connaître, découvrir peut-être ce qu'est cette garde d'honneur. Bonjour Geneviève.
Bonjour, eh bien, merci de m'accueillir et de me permettre de la faire connaître justement cette garde d'honneur.
On va tout faire pour ça dans cet espace que nous offre Radio Courtoisie. Peut-être pour démarrer, remontons aux sources de la dévotion au Sacré-Cœur, les apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque, à Paray-le-Monial au XVIIe siècle.
Oui, alors déjà souvent, je recorrige. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, elle ne date pas de Paray-le-Monial. C'est une histoire beaucoup plus ancienne puisqu'elle démarre avec l'histoire de l'Église, hein, avec le cœur transpercé de Jésus. Saint Irénée et Saint Justin en parlaient déjà du Sacré-Cœur, Saint Bernard de Clairvaux aussi, et Saint Jean Eudes avait déjà célébré une messe du Sacré-Cœur de Jésus, alors que Marguerite Marie, qui a eu les apparitions, bien sûr, du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, n'était même pas encore visitandine. Donc le Sacré-Cœur de Jésus, c'est depuis le cœur de l'Église, depuis le départ.
Voilà. Mais ces apparitions ont vraiment fait connaître cette dévotion. Pouvez-vous nous parler des apparitions ?
Alors, en fait, les apparitions, il faut les comprendre que c'est surtout une piqûre de rappel que Jésus fait à notre sœur. Voilà. On comprend dans les demandes que Jésus fait à Marguerite Marie que cette dévotion au Sacré-Cœur est liée fortement à l'Eucharistie. D'ailleurs, il lui fait comprendre que son cœur est présent dans tous les tabernacles du monde et dans toutes les communions eucharistiques, parce que c'est son corps qui est vivant et que pour que son corps soit vivant, il faut qu'il y ait un cœur qui batte à l'intérieur de ce corps. Voilà.
C'est très incarné. C'est donc, oui, c'est très incarné finalement, ce message. Ce n'est pas un message éthéré.
Pas du tout. D'ailleurs, il est très concret puisqu'il va demander, la toute première chose qu'il va demander à Marguerite Marie, c'est d'être représentée sous la forme d'un cœur de chair, veine apparente, un cœur anatomique. Donc, c'est vraiment incarné. C'est vraiment pour dire à l'humanité que son cœur continue de nous aimer, continue de battre. Certes, il est mort sur la croix, il est ressuscité, mais c'est toujours avec son cœur d'homme, un fils de Dieu malgré tout, mais cœur d'homme qu'il continue de nous aimer, puisqu'il est présent dans l'Eucharistie.
Geneviève Vigne, vous qui êtes spécialiste du message et donc de cette période, pensez-vous que précisément il y avait besoin de cette incarnation à ce moment-là de l'histoire et de l'histoire de l'Église ?
Oui, parce qu'on était en pleine période jansénisme, donc on avait toute une partie, une tranche de l'Église qui était très exigeante où très peu de personnes étaient au final sauvées. Donc on avait un peu boycotté l'amour, si je puis dire, du cœur de Jésus. C'est un Jésus, un Dieu justicier. Mais il y avait aussi, de l'autre côté, toute une tranche de la population et de catholiques qui étaient des pratiquants rarissimes, bien plus occupé à faire autre chose que d'avoir des dévotions vis-à-vis du Sacré-Cœur de Jésus. Il y avait vraiment les deux pendant à cette époque. Mmh.
Est-ce qu'on peut parler des promesses ?
Alors les promesses, oui. Alors il faut comprendre que chacune des promesses que Jésus va faire, à toutes les demandes qu'il va faire à Marguerite Marie, à chaque fois ces promesses, je dis toujours que c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire c'est nous qui en sommes les premiers bénéficiaires. Voilà, Jésus ne fait pas des promesses ou ne demande pas à être honoré juste parce qu'il a besoin d'être glorifié. Il se passe royalement de nous, il n'a pas besoin de nous pour être aimé. Il est aimé, il est amour. Mais les promesses, ce sont des moyens de nous sanctifier, nous. Si nous faisons ce que Jésus demande, et bien sûr, il fait des promesses, donc quand même la plus importante, qui est celle d'être sauvé. hein, c'est-à-dire de mourir en état de grâce. Je pense que c'est la plus importante, c'est celle que nous souhaitons tous. Et ces promesses, elles sont là aussi pour nous aider à vivre notre foi en lui. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en donner
Alors, je ne
quelques-unes?
les ai pas en tête là
Vous ne
tout de
les avez
suite
pas
comme
en tête,
ça.
mais...
Non, non, parce qu'il y en a 12. Et puis, en fait, à l'origine, il n'y en a pas 12. Hein, donc, il y en a certaines qui ont été divisées en deux. Mais c'est quand même les plus importantes. C'est que Jésus dit que ceux qui vont l'aimer davantage et qui vont l'honorer, eh bien, il leur rendra leur cœur eux-mêmes brûlant. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que quand on aime, eh bien, Jésus nous aime davantage et nous le ressentons davantage. Voilà, on aura aussi des bénédictions. Il le promet pour les foyers. Donc ça, c'est important. Il dit qu'il sera aussi source de paix, source de grâce. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que tout ce que nous demande Jésus, ben, au fond, c'est pas grand-chose. Voilà.
C'est d'être
Mais
présent et
c'est pour nous sanctifier, nous.
d'entrer dans ce cœur à cœur, justement. Il montre son cœur, il attend celui de ses fidèles. Pourquoi au XIXe siècle, la dévotion au Sacré-Cœur prend-elle un nouvel essor? Parce que...
Alors, il y a plusieurs éléments.
Oui.
Déjà, il faut savoir que la France sort d'une crise énorme. On est après la Révolution française, les périodes de terreur. La France n'est pour autant pas très en paix, puisqu'elle connaît une crise politique. Elle en connaît deux. Elle connaît la crise, la guerre franco-prusse. Elle connaît aussi les anarchistes qui rejettent complètement l'empereur. Mais aussi, je veux dire, voilà. Donc, on est en train de penser nos plaies, et comme dans toute crise politique majeure, l'homme se tourne vers le spirituel.
Et qu'est-ce qui va se passer vraiment au 19e? Je rappelle à nos auditeurs qu'avec vous, Geneviève Vigne, nous centrons notre émission sur le Sacré-Cœur de Jésus. Nous la centrons particulièrement sur la garde d'honneur. Et
Voilà.
parce que véritablement, notamment dans le film Sacré-Cœur des Gunelles, moi j'ai un peu souffert de ne pas en voir toute l'ampleur. Et donc racontez-nous.
Alors, il faut comprendre que déjà le Sacré-Cœur de Jésus, il est multifacette. Hein. C'est, voilà, il y a énormément de dévotions qui tournent autour du Sacré-Cœur de Jésus. Mais cette garde d'honneur, elle arrive à un moment clé, puisque enfin Marguerite Marie va être béatifiée. Elle ressort des tiroirs, on l'a un peu oubliée, la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, tout le monde en parle, mais l'héritière du Sacré-Cœur de Jésus, elle était un petit peu mise à la trappe, si je puis dire.
Donc, Sainte
Donc,
Marguerite Marie à la coque,
Sainte-Marie.
voilà, qui était visitandine à Paray-le-Monial.
Voilà, elle sera béatifiée en 1874. Hein, 1864, pardon, je vous dis une bêtise, 1864. C'est un peu avant que une sœur de la Visitation qui s'appelle Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernau, elle a choisi le nom parce qu'elle était une amoureuse du Sacré-Cœur de Jésus. Donc on est en 1863 là, et bien sûr on reparle de ce procès de béatification qui arrive au bout, et tout le monde se réjouit hein, dans tous les monastères de la Visitation du monde entier de cette future béatification qu'on attendait depuis près de 180 ans quand même.
Il y avait déjà de grands pèlerinages à Paray-le-Monial?
Exactement, oui, il y avait déjà de grands pèlerinages à Paray-le-Monial. Donc, cette sœur de la Visitation de Bourg se posait la question de comment répondre à une plainte que Jésus avait manifestée auprès de Sainte Marguerite Marie. Il lui avait demandé, à elle en particulier, toi du moins, supplée à tous les manques d'amour, donc sous-entendu qui me font tant souffrir, par un surcroît d'amour et quelques menus sacrifices. Voilà. Et Marguerite Marie, un jour, avait été aussi, pardon, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernau, avait un jour été aussi touchée par une phrase du psaume, J'ai cherché des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Donc elle se demandait comment répondre à ces demandes de Jésus. Et en fait, elle n'a pas eu trop besoin d'y réfléchir, parce que c'est le Seigneur lui-même, on peut dire, hein, qui lui a donné la réponse. Voilà.
Quelles sont les trois grandes blessures qui ont crucifié, qui crucifient chaque jour Jésus en son cœur, comme il l'a
Alors,
été
j'aimerais qu'il n'y en ait que
en
trois.
son corps?
J'aimerais qu'il n'y en ait que trois.
Ouais.
on reprend ce que Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, on se rend compte qu'il souffre de l'indifférence, exactement comme à l'époque de son vivant, donc de l'indifférence des gens qui ne croient pas qu'il est le Sauveur. Il souffre du mépris, il souffre de la froideur, hein, il souffre de la méconnaissance, mais il souffre aussi du rejet, du rebut, même des fidèles, des croyants. Voyez, et je pense qu'il y a encore bien d'autres blessures qui offensent le cœur de Jésus aujourd'hui, à notre époque. Voilà. Mais sans doute, la blessure la plus grande qui le fait souffrir, c'est celle qui est liée à l'Eucharistie. Celle qui est liée à l'Eucharistie.
Aujourd'hui, cette dévotion au Sacré-Cœur, est-ce qu'elle apparaît vieillotte, surannée? C'est peut-être nos auditeurs qui vont nous le dire en nous disant « mais ce sujet paraît si vieillot ». Ou alors, ce message, cette présence, est-elle en fait parfaitement adaptée à notre temps?
Elle est complètement adaptée. Alors déjà, une part, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, comme je le réponds souvent à des prêtres qui me disent que c'est une vieille dévotion, je me dis on ne peut pas dissocier le cœur de Jésus. On met le cœur de Jésus dans Jésus et on a affaire à la même personne. Voilà.
Ouais.
Donc, on ne peut pas dissocier. Si on aime Jésus, on aime son cœur. Si on aime son cœur, on aime Jésus.
Vous en êtes le témoin, Geneviève Vigne. Vous êtes
vous-même,
vous êtes à Paray-le-Monial. Vous êtes tout près, dans votre bureau, tout près de la Visitation, là où repose le corps de Sainte Marguerite Marie, où il y a toujours cette communauté de visitandines. Vous voyez passer des personnes qui viennent peut-être vous poser des questions sur la garde d'honneur, etc. Vous êtes vraiment témoin. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, il y a un surcroît de visites depuis ce film Sacré-Cœur?
Alors oui, on entend parler beaucoup plus du Sacré-Cœur de Jésus. Hein. Ça a permis de réactualiser, de reprendre conscience justement que de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'était vraiment nécessaire. Alors moi, Paray-le-Monial, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, je suis tombée dedans quand j'étais petite puisque je suis née à l'ombre du Sacré-Cœur. Donc,
ah oui.
Voilà, parce que je suis charolaise.
Ah, vous êtes charolaise, c'est merveilleux. On peut dire à nos amis auditeurs que c'est une des plus belles régions de France aussi, on peut le dire ça, non?
C'est ça, je dis même que c'est le centre du monde. Donc...
Allons-y.
Voilà, donc c'est le centre du monde parce que le cœur de Jésus y bat forcément. Et c'est vrai que je suis toujours heureuse de voir des pèlerins rentrer dans cette chapelle là où ont eu lieu les apparitions. Et s'y recueillir, c'est un lieu de grâce, c'est évident, c'est un peu comme si le cœur de Jésus était là encore, ouvert, et en attente de déverser tout son amour et cette miséricorde.
Et vous avez
Mais
des visiteurs du monde.
Sans oublier,
oui, pardon, oui.
Oui. Ce n'est pas sans oublier que c'est aussi un cœur qui se plaint de ne pas être aimé en retour. Hein, voilà, Jésus le dit à Marguerite Marie, hein, je suis un amour qui n'est pas aimé et qui souffre de ne pas être aimé.
Vous voyez passer des pèlerins du monde entier?
Pardon?
Vous voyez passer des pèlerins du monde entier?
Oui. Pour ma part, je reçois entre 1000 à 1400 personnes chaque année et c'est très international. Voilà.
Alors, parlons de cette garde d'honneur. C'est beau ce nom, garde d'honneur, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en fait, voilà, cette garde d'honneur, en quoi ça consiste? C'est chaque personne qui choisit une heure de sa journée et sans ne rien changer à ses occupations, quoi qu'on fasse, où qu'on soit et quoi qu'on devienne, eh bien, on devient un petit saint pendant une heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue ce qu'on est en train de faire, mais seulement on le fait avec amour. On met beaucoup plus d'amour dans nos pensées, dans nos gestes, dans notre manière de faire et d'agir. Vraiment quoi qu'on fasse, on peut être chirurgien, être en train d'opérer, on peut être en prison, on peut être dans un lit de souffrance, peu importe, c'est l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Et cet amour console le cœur de Jésus. Et tout ce qui va nous contrarier pendant cette heure, un coup de fil déplaisant, une facture qui arrive, quelqu'un qui vous roule sur le pied avec un caddie, je ne sais quoi encore, eh bien, vous l'offrez à Jésus avec patience. Et là, on est dans le domaine de la réparation. C'est le fait de le prendre avec patience et de l'offrir à Jésus, eh bien, ça répare aussi les conséquences de nos propres péchés.
On en voit, on en cueille quel fruit finalement de cette présence jour après jour. Dites-nous votre témoignage ou peut-être des témoignages que vous avez reçus.
Oui. Alors, ces fruits, c'est un chemin de sanctification. Là, ce sont les papes qui l'ont dit. Je vais vous donner un exemple qui m'a toujours beaucoup marqué. C'est le pape Pie IX. Quand il s'est engagé, il disait que c'était son titre de gloire le plus important. Alors, c'est surprenant parce qu'on aurait pu penser que c'était le fait d'être pape qui était le plus important pour lui. Non, c'est parce qu'il avait compris que c'était dans sa vie d'homme ordinaire qu'il pouvait devenir un saint. Et c'est dans les toutes petites choses de la vie ordinaire qu'on devient des saints. Donc c'est un chemin de sanctification. Chaque jour, on revient à cette heure en s'appliquant davantage pour Jésus. Donc petit à petit, cette heure, elle doit faire tache d'huile sur toutes les autres. Donc c'est comme ça qu'on devient des saints.
Tout doucement et donc très naturellement dans son
C'est
devoir d'État.
pédagogique.
On est, et
C'est
c'est
ça.
pédagogique, exactement. C'est ce que vous dites, Geneviève Vigne. Vous qui recevez ces engagements, alors on s'engage comment comment vérifiez-vous que ce n'est pas un engagement comme ça, sous l'effet d'un emballement? Comment faites-vous, vous qui les recevez?
Je ne vérifie rien du tout. Voilà, les personnes s'engagent, c'est vraiment un cœur à cœur, c'est un engagement avec Jésus. D'ailleurs, on leur dit bien que même si ils ne sont pas fidèles ou qu'ils oublient leur heure, ce n'est pas un péché. Voilà, de toute façon, mon expérience me fait dire que les personnes qui se sont engagées, même si à un moment donné, elles lâchent, s'y arrivent, tôt ou tard, le Seigneur les rappelle. Parce que nous, nous sommes engagés, mais lui s'engage avec nous. Et ça, il faut jamais l'oublier.
Vous avez une idée du nombre de personnes qui font
Alors,
partie, qui ont fait partie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur?
cette garde d'honneur, ça a été à une époque la plus grosse archiconfrérie au monde, avec 30 millions de personnes engagées dans 120 pays. Alors, ce chiffre-là, il est assez extraordinaire, puisque c'est une époque où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait même pas le téléphone. Donc, on peut se demander comment ça a flambé à ce point-là dans les premières années de la garde d'honneur. La fondatrice inscrivait près de 80 000 personnes par an. C'est colossal.
Elle les inscrivait de sa belle plume.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait ce qu'on appelait des sœurs préposées aux Écritures, hein, qui bien sûr venaient l'aider, mais elle avait un travail colossal pour répondre à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine de pays, on est à peu près 4 millions de gardes d'honneur. Voilà. Mais sachant qu'il y a ceux qui s'inscrivent et ceux qui décèdent. Voilà, c'est un roulement perpétuel autour du cœur de Jésus. Voilà, la garde d'honneur, c'est ça, hein. C'est vraiment les membres qui protègent le cœur de Jésus.
Est-ce qu'il y
D'ailleurs,
a...
pour expliquer, pardon Valérie, je vous coupe, mais pour expliquer la notion de garde d'honneur, Jésus fait comprendre à la fondatrice que sa toute première garde d'honneur, c'était la Vierge Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles et Jésus a puisé du réconfort sur ses proches et eux-mêmes ont formé un rempart entre l'amour qui se donnait et la haine qui est à son paroxysme à ce moment-là. Eh bien, on est exactement dans cette même continuité pendant cette heure. C'est pour ça que ça s'appelle la garde d'honneur. Chaque personne, d'heure en heure, forme la garde rapprochée, comme disent les enfants, du cœur de Jésus. Nous devenons des petits soldats du cœur de Jésus.
Est-ce que cette petite armée a un lien entre elles? Est-ce qu'il y a une liaison, une feuille de liaison, je ne sais pas, ou bien tout cela appartient au mystère?
Non, 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 tout à fait. Il y a une hiérarchie. Déjà, on dépend du dicastère, hein, de Rome. Nous avons un directeur général, nous avons des directeurs nationaux dans tous les pays et nous demeurons bien sûr en lien. C'est pour ça que je suis la coordinatrice, c'est-à-dire je suis censée coordonner tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans les différentes cultures, dans les différents pays et les différentes sensibilités aussi. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, en France, on la redécouvre. En Pologne, on ne l'a jamais perdue de vue, à Madagascar non plus, et dans d'autres pays, surtout les pays d'Amérique du Sud, où le Sacré-Cœur tient une place énorme. C'est nous, en Europe, qui redécouvrons la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Elle a été très forte au moment des guerres de Vendée.
Oui, elle a été très forte à des tas de moments, au moment des guerres de Vendée, bien sûr, qui étaient atroces, mais aussi pendant la guerre 14-18, hein, mais aussi pendant toutes les guerres où les soldats mettaient des sauvegardes, mettaient des, voilà, se protégeaient avec ce qui existait justement, des représentations du Sacré-Cœur de Jésus.
Qu'est-ce que vous voulez dire par sauvegarde?
Alors, les sauvegardes, ce sont des petits morceaux de tissu où est brodé le cœur de Jésus avec sa couronne. Et donc, qui ont été à l'origine fabriqués à Nantes par les sœurs de la Visitation et qui permettaient aux uns et aux autres. Alors, on oublie, hein, ne pas oublier que c'est un sacramental. Et quand on porte la sauvegarde du cœur de Jésus, c'est-à-dire ce petit morceau de tissu sur soi, c'est important quand même de lui donner du sens, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un cri-cri, c'est pas un porte-bonheur, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'engage nous aussi avec Jésus.
Geneviève Vigne, à ce stade de notre entretien, donnez-nous peut-être toutes les coordonnées pour en savoir plus. D'abord le site et puis comment vous contacter.
Alors, donc pour me contacter, alors c'est soit par mail à gdh.paray@fruit.fr.
Je vais
Voilà.
le répéter, gdh.paray, Paray, @fruit.fr.
Voilà, où vous allez directement sur le site Garde d'honneur du Sacré-Cœur. Nous sommes en premier sur les modes de recherche et là, vous aurez toutes les coordonnées, numéro de téléphone, mais aussi toutes les adresses des centres du monde et de France pour ceux qui voudraient se rapprocher de nous. Voilà. Et on peut s'inscrire sous toutes les formes, par courrier, par mail, par téléphone ou dans mon bureau.
Et votre bureau, rappelons-le, il est 13 rue
Il
de la
est 13
Visitation,
Visitation. Il est accolé à la chapelle.
à la
Je
chapelle de la
travaille à
Visitation.
l'ombre du Sacré-Cœur de Jésus.
Vous avez beaucoup de chance. À Paray-le-Monial, dans cette si jolie ville du Charolais, où peut-être pendant cet été, les pas de nos auditeurs vont les conduire.
Seront les bienvenus.
Ils seront les bienvenus, ils iront vous poser toutes les questions que je ne vous aurais pas posées. J'aimerais bien que vous nous racontiez quelques fioritis, parce que ça fait presque 20 ans que vous êtes là, vous recueillez beaucoup de confidences, de témoignages. Qu'est-ce que vous pourriez nous... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je vous pose cette question? Des visages, des personnes, des miracles?
Alors, c'est vrai que j'ai des témoignages très forts de ce qu'a apporté cette garde d'honneur dans la vie de certaines personnes. Déjà, une expérience de la semaine dernière, j'ai reçu le faire-part d'un jeune homme que je connais depuis qu'il avait fait propédeutique à Paray-le-Monial, première année de discernement de séminaire, et qui va être ordonné prêtre le 28 juin, et c'est le jour anniversaire de son inscription à la garde d'honneur il y a 10 ans. Et il va être ordonné prêtre à l'heure qu'il a choisie, à 15 h.
Ah là là, c'est impressionnant. Les gens
C'est très
choisissent beaucoup
impressionnant.
15 heures
Oui.
d'ailleurs, dites-nous.
Oui. Non, pas forcément.
Non?
Non, on a vraiment toutes les heures. Non, non. Et alors, j'ai par contre des témoignages, oui, qui m'ont bouleversée. Je pense à cette dame qui était rentrée dans mon bureau il y a une douzaine d'années maintenant et qui était toute guillerette, une dame qui me dit « J'ai 62 ans, je suis une jeune retraitée ». Et je vais faire plein de choses, donc je voudrais choisir 9 h le matin. Et cette dame, elle avait la particularité d'être très, très maquillée. Alors vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça. Et elle était très dynamique, elle ne s'est d'ailleurs jamais assise dans mon bureau. Et elle avait choisi donc 9 h parce que le lundi, elle avait telle activité, le mardi, elle avait piano, le mercredi, elle avait natation, etc., etc. Et je lui ai fait, ben, OK pour 9 h le matin. Et elle m'a rappelé plusieurs mois après, je crois à peu près 10 mois après, en me disant qu'elle regrettait d'avoir pris 9 h le matin et elle demandait si on pouvait changer d'heure. Et je lui ai dit qu'hélas non, on ne peut pas changer d'heure parce que si on change d'heure, ça veut dire qu'on ne la fait plus pour Jésus, mais notre convenance à nous. Donc ça, c'est important de rappeler à nos auditeurs la fidélité de l'heure. Voilà. Et je lui demande pourquoi elle veut changer d'heure. Et là, il me dit, parce qu'entre-temps, j'ai fait un AVC. Je suis lourdement handicapée. Je suis même en institution. Et 9 h le matin, c'est l'heure où on vient faire ma toilette. Et ça me gêne donc d'offrir cette heure, à Jésus. Parce que c'est une heure de mon intimité. Et je lui ai donc dit qu'on ne pouvait pas changer d'heure. Et sans doute inspirée, je lui dis, mais pensez à Jésus quand il a été dépouillé de ses vêtements. Et nous en sommes restés là, j'ai senti sa déception. Eh bien, elle m'a rappelé 2 mois après pour me dire que, elle avait beaucoup réfléchi à cela et que depuis notre entretien, elle disait merci. Merci pour les soignants qui venaient s'occuper d'elle, qui venaient la changer, faire son transfert lit-fauteuil et qui venaient la faire belle. Alors, je croyais qu'elle insistait sur ce mot-là, mais en fait, c'est pas ça du tout. Elle me dit, petit à petit, c'est devenu l'heure de la toilette de mon âme. Et elle a compris que c'était Jésus lui-même qui avait choisi son heure parce qu'il voulait lui faire comprendre que il l'aimait comme elle était, et même dans sa toute petitesse, qu'elle était devenue. Et c'est depuis cette rencontre avec cette personne que je dis quoi qu'on fasse, où qu'on soit et quoi qu'on devienne. C'est important de se dire que cette heure, elle vieillit avec nous, elle se patine avec nous.
Geneviève Vigne, vous avez des enfants dans la garde d'honneur?
Oui, on a des enfants à la garde d'honneur, absolument. Mon plus jeune inscrit a 4 ans. Ma doyenne avait 103 ans quand je l'ai inscrite, donc on a les ouvriers de la première et de la dernière heure. Et chose étonnante, j'ai beaucoup d'enfants qui me font savoir qu'ils sont encore fidèles à leur heure de présence. Il y a 15 jours, j'ai reçu un jeune homme dans mon bureau avec sa toute jeune épouse et il me dit, vous savez, je me suis inscrit à la garde d'honneur, j'avais 8 ans et j'ai choisi 18 heures. Et sa toute jeune épouse me dit, oui, je confirme parce que depuis que je le connais, à chaque fois 18 heures, il me dit, attention, c'est mon heure de présence.
Ah ouais.
Voilà, il s'était passé des années, puisque jeune mariée maintenant, la trentaine. Et son épouse venait s'inscrire ici à Paray-le-Monial, elle aussi à 18 h.
Donc on le rappelle, cette heure que l'on donne chaque jour quand on est dans la garde d'honneur du Sacré-Cœur, c'est une heure que l'on garde dans sa vie active. Ce n'est pas un moment où tout s'arrête et on reste en
Non, du
prière et en
tout.
oraison. C'est du temps donné. En fait, d'une certaine manière, ça sanctifie un peu tous nos faits et gestes, ça sanctifie
C'est ça.
notre devoir d'État. C'est assez beau.
C'est ça. D'ailleurs, Saint Jean de la Croix disait, ce n'est pas dans les grandes œuvres que nous devenons saints, mais c'est dans les toutes petites choses de la vie ordinaire. Vous savez, c'est ce que Sainte Thérèse disait, se pencher, ramasser une épingle par amour pour Jésus. Voilà. Et c'est important. On a des mamans qui choisissent l'heure du repas et je me rappelle, une m'avait dit, ben, j'ai rajouté un couvert pour Jésus. Elle nous avait témoigné que ça avait apporté la paix dans sa famille. Une maman de 9 enfants.
Ah là là, c'est impressionnant ça. Ah ben ça, c'est
Voilà.
à essayer.
Mais oui. Mais oui, on a un chirurgien parallémonial qui a pris 8 heures le matin, c'est l'heure de sa première intervention chirurgicale.
Ah, c'est magnifique. Et vous
On a
avez
des
des...
personnes dans les maisons de retraite qui me disent à quel point ça donne du sens à leur vie, dans leur solitude. Elles ne se sentent pas inutiles. Elles offrent cette heure pour Jésus, pour la sanctification du monde et la leur, tout simplement. Et il y a 1 an et demi, nous avons inscrit 2 criminels qui sont en attente de leur exécution dans le couloir de la mort au Texas. 2 criminels qui ont choisi chacun une heure en réparation des crimes qu'ils ont commis. Donc, vous voyez, ça rejoint vraiment tout le monde. Tout le monde peut être engagé à la garde d'honneur.
Dans les promesses du Christ, je reviens à notre conversation du départ, il y a la consécration des maisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs sur cette
À l'époque,
consécration?
ce n'était pas la consécration. À l'époque, c'était. Voilà, Jésus avait demandé à être représenté sous l'image, hein, la forme d'un cœur de chair, et il promettait que ceux qui honoraient d'une façon singulière cette image, eh bien, il leur déverserait des bénédictions. Et c'est un petit peu ce que, après, le Père Matthieu a fait avec l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus.
Ah oui, d'accord, c'est dans la
Donc, ça revient
continuité.
au même. Voilà.
Ça peut expliquer à nos auditeurs pourquoi dans les vides-greniers, les brocantes, on
Eh
voit
oui.
beaucoup d'images du Sacré-Cœur, parce qu'en fait, il y a des maisons, des appartements qui sont vidés, c'était une dévotion. Et à chaque fois, je me dis, ben voilà, il était là, bon, ben, il va peut-être continuer sa vie. D'une certaine manière, c'est un peu poignant quand même.
Oui, c'est poignant parce que cette image et puis cette représentation du Sacré-Cœur de Jésus, bien sûr, si ce n'est pas qu'un joli cadre plaqué au mur et qu'on ignore après, mais c'est se dire que c'est l'hôte principal de la maison. Voilà, ça changerait tout d'ailleurs si on en prenait conscience que Jésus habite avec nous et qu'il le souhaite d'ailleurs. Il souhaite participer à nos vies. Il le dit hein, dans les formules de consécration. Jésus disait, mais si vos affaires du monde vont si mal, c'est parce que ne vous occupez pas suffisamment des miennes. Occupez-vous de moi et moi je m'occuperai des vôtres.
Dans votre édito sur le site Geneviève Vigne, vous dites « Le monde semble courir à sa ruine ». Vous faites part de cette citation pour aujourd'hui, 2026. Vous montrez que ça a souvent été le cas dans l'histoire. Que nous dit le Sacré-Cœur dans cette peur de l'avenir? Comment raviver la confiance? Vous voyez, j'aimerais bien que vous nous... Vous, avec tout ce regard que vous avez, que vous nous aidiez à... Oui, que vous nous redonniez de l'espérance.
En fait, si on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà, je suis en train de vous parler là maintenant. Je ne sais pas dans une heure très précisément ce que je vais faire. J'ai mon planning, je vais aller chercher mes petits-enfants, mais Dieu a peut-être un autre plan. C'est se remettre à cette dimension de tout petit et de se dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il maîtrise absolument tout. Il sait ce qu'il va advenir de nous, il sait quand est-ce que ce monde passera, donc autant lui faire confiance et s'abandonner, puisque déjà il le sait. Voilà, il nous demande simplement l'abandon du cœur et surtout lui faire confiance. On croit qu'on maîtrise les choses, on croit qu'on maîtrise les événements, et en fait on ne maîtrise pas grand-chose. Et ça, c'est reprendre sa juste place d'enfant de Dieu.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout le Sacré-Cœur, que conseilleriez-vous comme premier livre? Alors, vous avez écrit vous-même, pouvez-vous nous rappeler les titres des livres que vous voulez particulièrement mettre en valeur aujourd'hui, Geneviève? Alors, Vigne,
le premier j'ai écrit, c'est « Aimer ce cœur souffrant », hein, qui rappelle que dans les choses de la vie, on offense le Seigneur sans même le savoir, mais qu'une fois qu'on s'en rend compte, eh bien on peut réparer cela. Voilà, on peut changer les choses. En fait, pour rencontrer, je pense, le Seigneur, la première démarche, avant de lire des choses, c'est peut-être tout simplement s'asseoir et avoir une vraie conversation de cœur à cœur avec lui. Alors, moi, je suis une mauvaise conseillère par rapport à ça, parce que je ne suis pas une rabâcheuse de prières. Je suis une... je parle à Jésus, voilà, comme s'il était souvent à côté de moi. Et je sens sa présence. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut d'abord rechercher. Voilà. Alors, la prière, bien sûr, nous aide. Hein. Les saints nous ont écrit des prières magnifiques. L'Église en a des superbes. Mais ne pas chercher à faire des choses trop compliquées, ne pas chercher toute la théologie autour du Sacré-Cœur de Jésus, mais simplement se savoir aimé par un Dieu qui a donné sa vie pour nous.
On peut citer votre livre « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » chez Via Romana en 2024. Beaucoup de livres existent sur le Sacré-Cœur. Vous avez parlé du Sacré-Cœur dans l'histoire. J'évoquais les Chouans, mais vous avez parlé de la guerre de 14. Très intéressant de voir ça aussi sur un plan historique, si c'est par là qu'on entrera le mieux. Mais voilà, être attentif à cela. Quelle est la prière que vous préférez adresser au Sacré-Cœur?
La prière que je préfère, c'est une prière un petit peu tristounette, mais elle me parle énormément. C'est vraiment le chemin de croix. Alors, c'est assez étonnant, mais je retrouve que dans toutes les stations du chemin de croix, ça nous rejoint dans notre vie d'aujourd'hui. La providence veut que très souvent on m'appelle Véronique, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été, parfois on m'appelle Véronique, on m'écrit même chère Véronique, alors qu'on sait que je m'appelle Geneviève, mais parce que j'ai une grande dévotion pour la Sainte Face, j'ai toujours pensé qu'en regardant Jésus dans sa Sainte Face, nous y comprenions les secrets de son cœur. C'est comme quand on regarde quelqu'un, on voit à peu près ce qui se passe dans le cœur de la personne. Et ma prière, c'est vraiment celle et de la Sainte Face et le chemin de croix. Quand Jésus tombe, j'ai l'impression que moi aussi, je suis tombée 1000 fois. Quand je porte une épreuve, je pense que Jésus m'a aidée à porter tout en portant sa croix. Je pense que parfois, on le défigure dans notre manière d'être, etc., etc. Il y a nos orgueils qui sont autant de couronnes d'épines qu'on lui met sur la tête. Et ça me porte et ça me parle. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait des trois grandes blessures qu'on retrouve dans ce que vous évoquez. Donc, vous disiez, je vois sur le site, dans sa paternité, dans sa royauté, dans son sacerdoce.
Et surtout, on ne le reconnaît pas non plus comme roi. C'est-à-dire, on en a fait presque un égal à nous-mêmes. C'est un peu le travers de notre monde d'aujourd'hui, de l'Église en général, pour ne pas non plus la stigmatiser. Mais voilà, on oublie que Jésus est le roi des rois et surtout qu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, à ce propos, il y a une petite anecdote qui m'a toujours fait sourire. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Jésus avait attribué un ange spécifique à Marguerite Marie, pour sa mission d'héritière du Sacré-Cœur. Donc, en plus de son ange gardien, elle avait un ange spécifique. Et un jour, Marguerite Marie voulait communier, aller à la messe, et sa supérieure l'en a empêchée. Donc, elle n'y est pas allée par obéissance. Et qu'est-ce qu'elle a fait, notre Marguerite Marie? Eh bien, elle a un petit peu rouspété auprès de Jésus. C'est son ange spécifique qui lui est apparu et qui lui a dit, en substance, que lui adorait Jésus, enfin la face de Dieu en permanence, et que elle, si elle se permettait encore de parler avec familiarité au Seigneur, il l'anéantirait sur le champ.
Ah ouais.
Remet bien les choses à l'endroit. On oublie de temps en temps que, eh bien voilà, on doit se prosterner. D'ailleurs, Jésus s'en plaint beaucoup à Marguerite Marie, tous ces gens qui rentrent dans les églises sans le saluer au tabernacle, sans avoir un seul regard, un seul souci pour l'hôte de l'église, en fait. Et c'est une grande souffrance pour lui. On peine à l'imaginer, mais voilà. Et si on reprenait l'habitude de faire une belle génuflexion devant les tabernacles et de se rappeler que Jésus est vraiment présent dans les églises, je pense que ça changerait tout de nos comportements.
Et c'est une dévotion qui est ouverte, qui est offerte à tous. Enfin, c'est très simple.
Oui.
Voilà, là, vous parlez des gestes. Ben, ces gestes, ils nous concernent tous, des plus
Il
grands aux
faut
plus
les adopter.
petits, partout dans le monde, etc. Enfin, c'est ça qui est très, très touchant dans le Sacré-Cœur. Geneviève Vigne, on peut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent faire appel à vous pour des conférences. Vous êtes,
Oui,
vous
bien sûr,
faites ça volontiers. Comment on vous contacte?
bien
Redonnez-nous
simplement
peut-être.
me contacter avec le mail que je vous ai donné tout à l'heure, il
Que
y a
je
mon point de
redonne,
téléphone, il n'y a pas de souci.
gdh.paray,
Parfait.
Paray,
Oui.
@free.fr,
C'est
Geneviève
ça.
Vigne.
Oui.
Très facile de vous contacter. Qui
Ah
sont les
oui.
personnes qui viennent vous écouter? Dites-nous un peu.
Écoutez, j'étais à Paris samedi puisque j'ai fait deux conférences. Je pense que c'est déjà tous ceux qui veulent découvrir le Sacré-Cœur de Jésus, ceux qui sont en chemin aussi dans leur foi et ceux qui veulent l'approfondir, redonner du sens justement à cette dévotion, mais aussi du sens à ce qu'ils vivent au sein de l'Église à travers l'Eucharistie, dans leur messe, dans leur groupe de prière. Voilà, tout simplement.
À Paray le
Ça
Monial,
remet le cœur au centre.
bien sûr. Et à
Oui.
Paray le Monial, dans votre bureau, il y a ce grand livre que je trouve merveilleux. Il commence à, c'est un grand livre, donc vous disiez tout à l'heure, on a consigné les noms d'abord à la plume des personnes qui se sont engagées.
C'est ça.
À partir de quand, dites-nous, ce grand livre, il réunit d'abord combien de noms et
Alors, il y a à peu près 3 millions. Il y a à peu près 3 millions de noms inscrits dans ce livre, sachant qu'il y a des absences. Il y a des années où il n'y a pas eu de noms répertoriés parce que, en période de guerre, donc le registre était caché et on inscrivait presque clandestinement les noms. Donc, ne pas l'oublier. Mais on a des noms très, très illustres, on a des saints hein, qui sont dans ce grand registre. À l'époque, notre sœur fondatrice recevait donc les inscriptions et elle les notait hein, dans un cahier, d'ailleurs comme moi je fais. Et après, une sœur de sa plus belle plume les inscrivait dans un magnifique registre et même sur les cadrans. Il y
Alors,
a
c'est
été
quoi
une
les
pompe.
cadrans?
Voilà. Alors le cadran, donc vous l'avez là derrière moi et à chaque heure, les sœurs inscrivaient les noms des personnes. Alors, vous imaginez bien que si on inscrivait cela à Paray le Monial, tous les X fois par jour, le cadran ne serait jamais plus accroché au mur.
Mais bien sûr,
Voilà.
je
Mais,
redis à nos
oui.
auditeurs, parce qu'ils pensent peut-être que vous avez fait un lapsus, il y a 3 millions de noms inscrits
Dans le
dans ce
registre.
grand registre, dans ce
Oui.
grand registre qu'on peut
Oui.
avec votre que vous
En
dont
fait,
vous pouvez tourner les pages pour nous les montrer, c'est incroyable.
j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas seulement que 3 millions de noms, il y a 16 kilos de noms, puisqu'il fait 16 kilos. Voilà.
Et vous parliez d'inscrits illustres, vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Alors on a bien sûr, on a 7 papes. Hein. Le dernier pape à s'être inscrit, c'est Benoît XVI. Nous avons Don Bosco, bien sûr, hein, c'est grâce à lui. Nous avons Don Cobboni aussi, qui était un missionnaire belge qui a missionné en Afrique et qui a beaucoup parlé de la guerre d'honneur. Nous avons Charles de Foucault, hein, nous avons découvert qu'il était garde d'honneur. Léonie Martin, voilà une partie de la famille Martin. Et tant d'autres, hein, je veux dire, voilà. Et on en découvre, puisque la semaine dernière, il y a eu la béatification de 9 martyrs polonais, et dans ces 9 martyrs, 3 étaient gardes d'honneur. Voilà. On en découvre sans arrêt. Voilà.
Et
On la découvre.
puis voilà, et puis tout ça est dans le mystère
Oui.
des saints que l'on découvrira au ciel. Enfin voilà, tout ça c'est magnifique, ça fait une chaîne. Enfin je trouve que c'est la chrétienté, c'est l'illustration de la chrétienté en fait.
C'est ça, c'est ça. C'est une petite dévotion qui est simple, qui est à la portée de tous. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi elle attend plus. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de s'arrêter, on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin. Voilà. Moi, personnellement, je veux dire, c'est mon heure de 11h à midi. La semaine, je suis au bureau. Le samedi, je suis en train de passer l'aspirateur. Je prépare ma maison comme si j'allais accueillir Jésus. Et le dimanche, je suis à la messe à cette heure-ci. Et ça ne change rien pour vivre mon heure de présence. Du tout. Voilà. C'est vraiment une manière de l'habiter et de repenser. C'est pour ça que ça s'appelle aussi une heure de présence. C'est reprendre conscience que Jésus est perpétuellement présent à côté de nous. Mais c'est nous qui l'oublions.
Merci infiniment, Geneviève Vigne. Vous redonnez de la chair justement à cette dévotion qui peut à certains sembler vieillotte, alors qu'en fait, vous nous l'avez dit, elle est faite pour notre temps. Elle nous donne beaucoup d'espérance parce que Jésus a ouvert son cœur et de manière très très charnelle pour que nous lui donnions notre temps, nos œuvres, nos pensées. C'est tout à fait merveilleux. Vous nous donnez vraiment envie. Pour tous les aspects, votre site est vraiment bien fait. Je vais redonner les références à nos auditeurs. Garde d'honneur du Sacré-Cœur, toutaccroché.org. Et là, il y aura tout. Et on parlait des prières, etc. Eh bien, on trouve ces prières, on trouve un historique. Enfin, voilà, il est très, très, très bien fait. Et puis, votre édito, là, tout ce que l'on peut voir au fil du temps. Avec un calendrier aussi, on a les fêtes principales du mois.
Alors, les fêtes principales du mois, et je rajoute aussi les saints et les bienheureux qui étaient gardes d'honneur. Comme ça nous permet d'être en lien aussi avec eux. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc voilà, comment vous faites, vous? Vous avez un registre, tout est numérisé là maintenant.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, absolument. Oui.
Donc
Alors,
je.
tous les mois, j'envoie un conseil spirituel que je. Alors, celui qui est sur le site en première page, à chaque fois, j'ai comme référence, bien sûr, la fondatrice qui a écrit pendant 40 ans des conseils spirituels. Parce qu'elle disait, c'est pas tant d'avoir des noms inscrits, il faut vraiment des âmes ferventes pour chaque heure.
Comment êtes-vous aidée, Geneviève Vigne? Parce que là, on découvre un peu votre vie. Hein, vous consacrez toute votre énergie, voilà, à ce travail. Vous êtes aidée comment?
Alors, je travaille en binôme avec une sœur de la Visitation qui s'occupe surtout et principalement de la partie hispanophone puisqu'elle est mexicaine. Et les après-midi, j'ai une dame, Nadine, qui est bénévole et qui vient me donner un coup de main pour la rédaction de tous les courriers. Petite anecdote, la responsable de la poste que j'ai vue ce matin me rappelle toujours que je suis la plus grande consommatrice de timbres de Paray-le-Monial, puisque je m'engage à répondre à tous les courriers que je reçois.
Eh bien, bravo. En tout cas, vous nous avez emmenés dans cette belle ville de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial dans le Charolais, la ville du Sacré-Cœur, qui reçoit de nombreux pèlerinages, à la fois des pèlerinages organisés et puis des gens qui passent. Et il y a cette magnifique basilique romane. Et puis, il y a, pas très loin de la basilique, le monastère de la Visitation, où l'on peut retrouver la chasse de Sainte Marguerite Marie à la coque. Et vous, Geneviève Vigne, qui êtes dans le
Juste à
petit
côté.
bureau juste à côté. Donc, n'allez plus à Paray-le-Monial, chers amis, sans vous arrêter, dire bonjour à Geneviève. Et puis, réfléchissez bien à prendre cette heure. Moi, je vais y réfléchir. Vous m'avez tout à fait convaincue. J'aime beaucoup cet aspect, très ancré dans notre emploi du temps naturel.
C'est ça.
Voilà. Un grand merci. Donc, Geneviève
Avec
Vigne,
joie.
je redonne le site Garde d'honneur du Sacré-Cœur.org, Monastère de la Visitation, 13 rue de la Visitation, 71 600 Paray-le-Monial, si l'on veut vous écrire et si l'on veut vous envoyer un courriel gdh.org. paray, P-A-R-A-Y, @free.fr. Un immense merci Geneviève Vigne, à bientôt merci. À Paralmonial.
Merci. Merci à tous les auditeurs, merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
En 1846, Jean-Romain Lefebvre a 27 ans lorsqu'il s'installe à Nantes sur les conseils d'un ami. Il arrive de l'est de la France, de Varennes en Argonne précisément, pour reprendre la pâtisserie du numéro 5 de la rue Boileau. Les biscuits, à Nantes, on connaît. Depuis longtemps ici, on construit des bateaux. Et les marins qui partent naviguer ont toujours eu besoin des biscuits de mer, fabriqués par les boulangers de la ville. Les années passent. Jean-Romain est maintenant marié à Pauline-Isabelle Utile, une excellente gestionnaire. La demande de biscuits dépassant les capacités de l'usine familiale, Jean-Romain doit vendre des biscuits anglais. Il faut dire que l'Angleterre, pays des buveurs de thé, est alors aussi la capitale du gâteau sec. Et cette situation ne plaît pas beaucoup au fils de Jean-Romain, Louis, un homme au caractère bien trempé.
Père, il faut cesser d'importer des gâteaux d'Angleterre.
Écoute, mon garçon, je ne me lève pas à 4h du matin tous les jours depuis 40 ans pour que mon fils me donne des leçons. Je te signale que je viens d'avoir la médaille d'or de la ville et je ne vois pas pourquoi.
Mais c'est le bon sens, père. Vous savez où ils s'approvisionnent en matières premières, les buveurs de thé? Ici, chez nous. Ils nous achètent notre beurre et notre farine, fabriquent les biscuits dans leurs usines et reviennent à Nantes, le sourire aux lèvres, nous les vendre Made in England. Oh, Made in England, tu parles.
Tu crois?
Bien sûr. Allez, père, il faut réagir.
En 1882, Louis reprend naturellement la succession de l'affaire familiale. Rapidement, il décide de transférer la petite pâtisserie de la rue Boileau vers une véritable usine, Quai Baco, le long de la Loire, et donne à son entreprise le nom de Lu. Il réunit alors ses proches collaborateurs.
Mes amis, certes, les Anglais sont en avance sur nous avec leurs maudits cookies, mais j'ai appris beaucoup en les regardant travailler. Pour reprendre l'avantage, continuons à faire les meilleurs biscuits. Et ensuite, sachons les vendre. Pour susciter la gourmandise, rien de tel que de séduire l'œil. Fabriquons de beaux biscuits. Mettons-les dans de jolies boîtes et montrons-les partout, jusque sur les murs. Là-dessus, mes amis, j'ai ma petite idée.
Louis crée d'abord une gamme de produits aux noms alléchants. Les marguerites, les duchesses, les croquignoles. Puis, il travaille sur un biscuit à la forme carrée, dentelé sur les côtés et aux quatre coins particulièrement soignés. Ainsi, en 1886, alors qu'aux États-Unis on érige la statue de la liberté, naît à Nantes l'empreinte définitive du légendaire, du fameux petit beurre Lu Nantes.
Chers amis, vous venez d'entrer directement dans le sujet de notre partie du Libre Journal de la Transmission consacrée aux routes du rêve. Alors que casque sur les oreilles et écran hypnotique devant les yeux, les enfants prennent l'habitude de traverser la France en voyageant comme des valises, certains ne renoncent pas à transmettre la connaissance et l'amour du pays par des capsules audio à distiller au long du chemin les routes du rêve. Alfred Violet, auteur et producteur, père de famille, père et jeune grand-père, vous avez la passion de la transmission. Votre place est donc bien ici, au micro du Libre Journal de la Transmission, au cœur de l'été et des grandes vacances. Bonjour Alfred Violet.
Bonjour et merci de votre invitation.
Bah écoutez, je suis ravie parce que je trouve que notre émission est enregistrée, mais elle est publiée le 20 juillet. Elle tombe à pic pour tous nos amis qui s'apprêtent à faire de grands voyages en voiture ou en train d'ailleurs, et pour traverser la France en ouvrant les yeux et en restant un peu réveillé puis ancré dans le réel. Moi, je souffre beaucoup de voir les gens dans le train, par exemple, qui sont là complètement étanches aux régions extraordinaires qu'on traverse. Par moments, l'autre jour, ça m'est arrivé. Il y a un endroit en allant à Lyon que j'aime beaucoup, au cœur de la Bourgogne, qui s'appelle Berzet. On aperçoit le château de Berzet sur une petite lucarne. Mais j'étais à deux doigts de dire dans la rame « Mais regardez !» Donc vous, Alfred Violet, vous avez l'envie, la passion de la transmission, de l'histoire de notre pays. Et vous avez donc cette idée. Racontez-nous un peu l'épopée des histoires, des routes du rêve.
Oui, alors en fait, c'est né, j'étais comme un automobiliste, je dirais, comme les autres, sur la route, avec mes quatre enfants à l'arrière, et je voyais défiler les routes, je voyais défiler les panneaux le long des routes, et je faisais ce geste de vouloir appuyer sur le tableau de bord en me disant, mais j'aimerais bien que ces lieux me parlent. Bon. Et alors, c'est devenu un peu une espèce de lubie, on est au début des années 2000, et je me suis dit, mais si ces lieux devaient parler, comment parleraient-ils s'il s'agissait de lire Wikipédia ou un guide touristique papier, ça risquerait d'ennuyer et l'avant et l'arrière de la voiture. Et, par ailleurs, à ce moment-là, ça m'est arrivé d'aller plusieurs fois au Puy du Fou. J'ai trouvé ça assez magique comme façon de présenter l'histoire. Et l'idée m'est venue petit à petit de raconter des histoires, des histoires courtes, hein, qu'elles durent toujours autour de 5 minutes, et des histoires qui soient belles, qui soient positives, qui soient ancrées dans le monde réel et qui racontent des choses qui peuvent être parfois étonnantes. Moi, quand je me suis penché sur l'histoire du petit Lu, j'ai appris moi-même énormément de choses et je me pinçais presque en faisant les recherches, en me disant « mais c'est incroyable, on ne m'avait jamais dit ça, je ne savais pas ». Et voilà, donc avec un peu l'enthousiasme du Béotien, j'ai découvert toutes ces histoires et de proche en proche, on en a fait une soixantaine sur 5 itinéraires. Et après on a eu la grande chance d'avoir le concours de comédiens de renom qui ont été séduits par le travail qu'on avait pu opérer sur les textes.
Donc citons-les, parce qu'effectivement, on a entendu la voix d'Annie Dupéret et combien d'autres ?
Alors, il y a une vingtaine de comédiens, mais dans les noms les plus connus, vous avez Michel Galabru, qui raconte la Provence. Vous avez Véronique Jeannot. Vous avez Charlotte de Turckheim. Vous avez Roland Giraud. Et vous avez, je crois que je les ai tous dit, ça doit faire 5 si je ne me trompe pas.
Oui, vous les avez tous dit. Et comment les avez-vous fait travailler à cette époque-là, à ce moment-là ?
Eh bien, donc moi, je venais pas du tout de ce monde-là, du monde de la production audiovisuelle. J'étais même consultant en stratégie à ce moment-là. Et donc, tout le travail a démarré par les textes et le travail éditorial. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des histoires qui tenaient la route, j'ai pu aller voir. Il se trouve qu'incidemment, je suis rentré en contact avec des gens dans le monde de la télévision. Il y a quelqu'un d'une chaîne de télé qui m'a dit nous, on financerait éventuellement cette opération. Et de proche en proche, on a pu se mettre d'accord avec eux. J'ai pu, sur la base de ces textes, et avec le concours de cette chaîne de télé, puis de Michelin, où je peux citer d'ailleurs la chaîne, hein, c'était M6 à l'époque, avec le travail de fond qu'on a opéré avec le réalisateur, celui-ci a été convaincu que c'était une démarche d'abord artistique. Et il m'a fait l'immense bonheur de bien vouloir me mettre en contact avec des comédiens qu'il connaissait, qui sont ceux qui interviennent sur cette opération. Et je lui suis vraiment très reconnaissant. Hubert, si tu nous écoutes, je te salue.
Mais oui, bien sûr. Et puis, l'idée est merveilleuse pour notre temps. Donc, je le disais, les enfants voyagent avec leur écran sous les yeux. Est-ce que néanmoins leur curiosité reste intacte ? Est-ce qu'on arrive encore à les capter sur justement ce genre d'épisode ?
Écoutez, moi je peux parler de mon expérience personnelle d'abord. Je ne vois pas beaucoup d'enfants qui résistent au charme d'une histoire bien racontée. Si on ne fait pas de démagogie, si on ne les prend pas pour des nigauds, je crois qu'il faut être capable de leur parler de façon sobre est belle et leur raconter de belles histoires, s'ils sentent que voilà, il y a quelque chose de, d'intéressant, d'intrigant et de beau, et ils la suivent. Mmh. Et j'ai quand même le sentiment que, voilà, alors après ça dépend des tranches d'âge, mais à 6, 8, 10, 12 ans, on résiste pas très longtemps, je crois, à une belle histoire. Alors surtout si on est en voiture et qu'on est un peu captif et qu'on s'ennuie parce qu'on sait qu'on en a pour plusieurs heures.
Oui, et voilà. Donc en fait, ces histoires, elles ont le mérite d'intéresser, vous disiez, l'avant et l'arrière de la voiture. Et peut-être de susciter ensuite des discussions. Combien de temps dure un podcast on va les appeler des capsules audio. Je trouve que c'est plus en lien avec Radio Courtoisie. Combien de temps durent ces petites capsules audio?
En gros, une heure. Chaque trajet, vous avez pour une heure de contenu. Donc 12 histoires, 12 fois 5, à peu près 12 fois 5 minutes. Rien ne vous empêche, évidemment, quand vous aurez écouté l'histoire de Château-Gaillard sur la route de la Normandie, d'aller écouter juste après Guillaume le Conquérant, même si c'est pas forcément... Voilà, il y a aussi une possibilité d'entrer par la chronologie. Donc voilà.
Ouais, mais c'est drôlement bien. En fait, dites-nous les routes. Dites-nous ces routes, justement. Quelles sont-elles? On a l'axe, on part de Paris, on va dans le Midi.
Oui, alors on part de Paris. Alors pardon pour tous nos auditeurs qui sont en province, parce que je ne suis pas du tout parisianophile absolu, mais il fallait bien partir de quelque part.
Mais oui.
Et donc on a Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Bordeaux. Paris-Caen et Lyon-Marseille.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc on a un petit tropisme sur l'ouest et sur le et sud.
Vous allez ouvrir vers l'Alsace dès que possible.
Voilà, absolument. voilà, exactement. Si on a un nombre d'auditeurs qui sont à la hauteur de nos attentes, effectivement, on compte bien continuer à couvrir toute la France.
Ah, mais c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a une souplesse. Et puis oui, nous, les parents, parfois, on passe à côté. Je ne sais pas, moi, je vais prendre au hasard. Ce n'est pas du tout du hasard. Mais on voit la race charolaise, par exemple, hein, quand on est sur la route de la Bourgogne. On voudrait pouvoir raconter le départ de la race charolaise, ce que ça veut dire, etc. Alors là, on a un petit podcast assez rigolo.
Absolument, ouais.
De Charlotte de Turckheim.
Exactement, sur la charolaise et l'escargot. Et effectivement, voilà, ce sont des élèves qui sont au fond d'une classe en plein air. Et voilà, ils ont... Voilà, la charolaise et l'escargot discutent sur leurs mérites respectifs. Ils sont tous les deux originaires, effectivement, de Bourgogne, donc on en sait un peu plus sur l'histoire de la vache charolaise.
Alors, donnons tout de suite, et on le répétera, la manière de trouver ces capsules audio à nos auditeurs. Dites-nous tout.
Alors, ça a été plusieurs itérations. D'abord, vous choisissez un itinéraire. Après, vous vous dites qu'il faudrait que tous les 50, 80, 100 kilomètres, on puisse raconter une histoire. Et donc, vous définissez une zone. Et à partir de là, vous vous dites qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant, qui soit si possible un peu différent de l'histoire précédente et qui puisse intéresser les auditeurs. Moi, j'ai tombé par une histoire que je trouve incroyable parce qu'elle m'était totalement inconnue. C'est l'histoire du tunnel de Saint-Cloud
Alors, racontez-nous ça, c'est incroyable.
Ah ouais, alors je l'ai découvert totalement par hasard en bibliothèque, parce que tout ça, c'est issu de livres, hein, de vrais livres de papier, comme on en avait. Voilà. Et donc, j'ai découvert qu'effectivement, le tunnel de Saint-Cloud avait été construit juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale et que les Allemands l'avaient fermé pendant l'occupation pour y entreposer des obus. Il a été fermé et gardé pendant toute la fin de la guerre. Les habitants de Saint-Cloud étaient inquiets et se demandaient un peu ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Tout à la fin de la guerre, mais ça, il faudra l'écouter, il y a un peu des enjeux pour savoir où vont finir ces obus, est-ce qu'ils vont servir à détruire Paris ou pas. Donc il y a un peu de tension, il y a le conseil municipal qui se réunit, qui essaie de voir comment on peut résister un peu à tout ça. Et voilà, tout ça, c'est une histoire qui m'était totalement inconnue et que j'ai trouvé... très intéressant.
Donc pour les petits Parisiens, sitôt attaché dans la voiture et le plein est fait et on a branché le meilleur, eh bien, dès le tunnel de Saint-Cloud, ils prennent déjà une petite page d'histoire, mais c'est
exactement.
Vraiment super.
Exactement. Et alors on a la possibilité aussi, j'ai mis ça pour les parents, on a après chaque histoire, vous avez dans la présentation deux questions que peuvent poser les parents aux enfants pour savoir s'ils ont bien retenu, s'ils ont bien entendu. Donc, je sais pas, combien y avait-il de résistants ? Ça a été dit dans l'histoire. Donc, voilà. Et donc, pour un peu s'assurer que, voilà, ils aient à peu près écouté l'histoire qu'on leur a passée. 5 minutes, normalement, c'est supportable pour un enfant de 8-10 ans. Quoi.
Alors, on les trouve sur YouTube ?
Oui.
Sur Spotify ?
Sur Deezer.
Deezer
et Apple Podcasts. Ouais, Apple Podcasts.
Donc, tout, voilà, quelles que soient vos habitudes, chers amis, eh bien, vous pouvez trouver ces capsules, préparer peut-être un tout petit peu au départ avant de partir, mais on a tout intérêt parce que, justement, dans ce, vous dites, les enfants sont captifs, évidemment, ils vont pas sauter en route, donc on les a là. Ça peut être un beau moment. Ça peut être un moment où on reçoit une information, on apprend ensemble. Bah voilà, c'est extraordinaire, c'est de la transmission pure, ça.
Oui, vraiment, on a essayé. Moi, c'était mon obsession pendant cette phase de création, de me dire, il faut qu'on trouve un ton qui parle à l'avant et à l'arrière de la voiture, donc un ton simple. Voilà, un ton audible et assez sobre. Alors, il y a du jeu, évidemment, de comédiens. Mmh. On n'a pas de grands éclats de voix ou de grands sons qui sont très agaçants pour les parents et qui n'apportent pas forcément grand-chose aux enfants, donc une certaine sobriété. Et après, on a essayé de trouver un équilibre entre la narration et le jeu pour qu'il y ait à la fois du contenu qui soit véritablement appris et enfin intéressant sur, je sais pas moi, le siège de Jules César à Alésia. Il y a un peu de narration, mais il y a quand même aussi la bataille. Enfin voilà, voilà, on essaie de trouver cet équilibre pour que voilà,
pour développer l'imaginaire. Absolument. Parce qu'en fait on est là dans quelque chose qui est purement audio. Et merveille, les images, on va se les faire soi-même. Et dans la voiture, chacun aura les siennes. C'est quand même ça qui est extraordinaire. Vous avez dit ces informations trouvées dans des vrais livres, etc. Ce qui est intéressant aussi dans votre travail, Alfred Violet, c'est que vous mêlez à la fois ces connaissances qui sont solides, qui ne sont pas du pré-mâché par l'intelligence artificielle, mais vous utilisez aussi ces moyens très modernes pour la mise en forme. Vous trouvez bien l'équilibre. Comment faites-vous pour rester dans un bon équilibre ?
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'IA est arrivée, il y a quelques mois, enfin auprès du grand public, j'ai fait quelques essais. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit que c'était impossible de ne pas montrer ça aux gens et à nos auditeurs. Je prends un exemple, Avignon du temps des papes. Vous avez un magnifique passage de Alphonse Daudet qui décrit Avignon du temps des papes. Ben, une IA est capable de vous générer, de vous faire revivre Avignon du temps des papes en images, ce qui était absolument impossible, sauf à dépenser des millions que je n'avais pas dans une production audiovisuelle. Et donc, comme l'IA arrive et que de toute façon ça va être utilisé, bien, soit on ne veut avoir que des images qui seront des dinosaures et des soucoupes volantes, ce qui est pourquoi pas intéressant, mais si ça peut aussi nous parler du patrimoine, eh ben, je trouve qu'on ne peut pas passer à côté.
Là, vous nous parlez d'images. On était sur les capsules audio, donc on peut aussi avoir un récit mis en forme.
Oui, alors pour le moment, on en a 3 ou 4 qui sont accessibles sur le site et sur YouTube. Mm-hmm. Voilà, donc pour cet été, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Et selon la façon dont les choses prendront, on développera pour la suite. A priori, on devrait continuer, oui, à faire de l'image pour la suite, parce que voilà, dans une société d'image, c'est compliqué de s'en passer. Maintenant, voilà, dans la voiture, si on peut continuer avec l'audio, ce serait pas mal.
Et ce qui serait quand même extraordinaire, je viens d'y penser, c'est que vous entriez en contact avec la SNCF pour les proposer, parce que ça serait fabuleux, ça.
Oui, absolument. Oui, ça fait partie des choses.
Des projets.
Oui, absolument. Ouais.
Chers amis auditeurs, si vous pouvez être relais dans ce projet-là, ça peut être extraordinaire, ça aussi. Ou avec d'autres idées. Comment peut-on prendre contact avec vous ? Dites-nous le site, tout.
Oui, alors le site, c'est lesroutesdurêve.fr. Et dessus, vous avez mon adresse email qui doit être alfred@lesroutesdurêve.fr.
Très bien. Voilà. On le redira parce que, voilà, vous voyez, chers auditeurs, On est tous liés dans cette quête de bons supports culturels. Rien de mieux que l'échange des bons plans. Voilà. Moi, peut-être mon émission Libre Journal de la Transmission, elle sert à ça. Hein. Donc, on y va, on communique. Là, vous tenez quelque chose qui correspond vraiment à un besoin pour aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Oui, dites-nous, Alfred Violet.
Moi, dans les années 70, on avait encore des billets de banque avec Victor Hugo, Blaise Pascal. On avait encore des visages. Le général de Gaulle venait de mourir, mais il y avait encore des grandes figures. Et une des choses aussi qui m'a motivé à lancer ça, c'est que je trouve que notre pays manque de visages. On n'a plus beaucoup de héros. Et c'est aussi faire renaître ces héros. Alors des héros, comme Lefebvre Utile, mais ça peut être Nicéphore Niépce qui invente la photographie. Ça peut être Paul Cézanne. Ça peut être Jeanne d'Arc. Saint-Martin à Tours. Voilà. Et redonner des visages. Alors c'est un peu paradoxal avec de l'audio, mais c'est réincarner. C'est aussi pour ça que les voix des comédiens est quelque chose qui est important et qui permet de donner cette humanité. C'est de redonner des visages à notre pays, des visages héroïques de gens qui se sont battus pour leur entreprise, battus pour leur pays, battus pour leur région, pour ce qu'on veut. Mais en tout cas, des belles personnes, quoi.
Vous êtes père, grand-père, vous parlez là de manière assez personnelle. Que pourrions-nous dire à nos auditeurs qui nous écoutent au cœur de l'été, qui vont peut-être recevoir leur famille? Quel biais de transmission dans la famille? Quels sont ceux que vous privilégiez, que vous avez expérimenté?
Alors, si on reste sur notre domaine, c'est raconter des histoires. Moi, j'en ai raconté beaucoup à mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Maintenant, j'en raconte à mes petits-enfants. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur, des livres, évidemment, mais aussi d'éventuellement d'en inventer. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Après... si je faisais le petit aparté hors-dehors de ce domaine-là, ce sont les repas. Mais ça, là, je sors un petit peu de l'audio, mais c'est vrai
non,
que...
Non, c'est intéressant, mais ça,
c'est
on a
vrai
besoin
que
d'entendre.
Les repas de famille avec la possibilité d'échanger et de lancer des grandes discussions qui peuvent intéresser tout le monde, ça peut être... ça peut presque même... être un peu préparé, c'est-à-dire que je trouve que se dire, moi ça m'est arrivé et peut-être encore plus maintenant que j'ai des enfants qui ont une trentaine d'années, c'est d'essayer de se dire on va se retrouver tous, de quoi on pourrait parler tous ensemble, qui soit un peu consensuel et qui permettra d'avoir des dîners, des repas animés avec avec un peu de vin et puis un bon
fromage
et puis un bon repas.
Ouais. Et si on a la chance d'avoir encore les grands-parents, peut-être tenter de leur faire raconter l'exode, les guerres.
Ouais, ça, vous avez absolument raison. Moi, j'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 90 ans, mon beau-père qui en a 95. Et mon beau-père qui a vraiment toute sa tête a été un exemple pour nos enfants absolument formidable. Il leur a écrit un petit livre sur la guerre telle que je l'ai vécue. Donc, c'est un truc qu'ils vont garder toute leur vie. Il avait 12-15 ans à ce moment-là. Mais dans un monde où on a des médias partout, on ne sait plus très bien à qui faire confiance. On fait confiance, on fait facilement confiance à son grand-père. Ce sont effectivement la Seconde Guerre mondiale vécue par quelqu'un. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connu mon grand-père me racontant son départ de notre maison de campagne, du départ de son père à cheval pour partir à la guerre de 14-18. C'est des souvenirs comme ça. C'est quand on s'imagine que si je raconte ça à mes enfants, qu'ils le raconteront à leurs propres enfants, peut-être que ces histoires-là, en 2100 ou en 2200, on continuera à se les raconter dans la famille.
C'est un peu le roman national raconté à hauteur de famille, en fait.
Oui, alors... Pour ce qui est du roman national, c'est vraiment, toutes ces histoires que j'ai lancées, c'est souvent on en parle du roman national, et puis c'est vrai quand on cherche le roman national, vous allez en librairie et vous demandez « je voudrais le roman national », vous n'avez pas... Voilà. Et donc, c'est une modeste contribution, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est l'idée effectivement d'y participer modestement à la narration d'une histoire un peu commune, quoi.
Dans ce travail préparatoire que vous avez fait de recueillir des anecdotes, des faits historiques sur les parcours que vous nous avez énoncés, quelles sont les histoires qui vous ont le plus surpris alors voilà, vous nous avez parlé du tunnel de Saint-Cloud, mais un peu plus loin, partons un peu, qu'est-ce qui vous a vraiment piqué ?
Alors moi, il y a une histoire qui m'a pas mal marqué aussi, c'est l'histoire de Jacques Cassard, le corsaire nantais. Là, c'est pareil, on entend un peu parler de Surcouf, du Gâtrou, hein, tout ça, mais jamais j'avais entendu parler de Jacques Cassard. Et ce type a eu un destin incroyable, quoi. Neuvième enfant d'une famille de 13, et il part bourlinguer au bout du monde à 19 ans en ayant déjà des bateaux sous ses ordres, et il finit enfermé. Enfin, c'est une histoire qui est là aussi que j'ai totalement découvert et qui m'a émerveillé et que j'avais jamais lu. Donc voilà, j'étais tellement content de pouvoir la mettre en forme après et de la partager parce que j'ai trouvé ça formidable. L'histoire de Victor Amédée Poulain aussi, c'est extraordinaire. C'est l'homme qui a fondé le chocolat Poulain. Il est né à Bléré, à côté d'Amboise. Il est orphelin, il est dans une famille d'accueil. Sa famille d'accueil n'a pas les moyens, alors qu'on voit déjà qu'il est assez malin. Donc, il va partir chez une dame qui est, je crois, la châtelaine du coin, qui repère qu'il est très, très malin et qui l'envoie travailler dans une épicerie parisienne où je crois que Balzac a ses habitudes, je dis ça de mémoire. Ouais. Et ce type-là va fonder la chocolaterie Poulain. À 9 ans, il a un baluchon et il quitte sa famille pour... Je ne le savais pas. Voilà, je ne le savais pas et j'ai très content de le partager aussi.
Et c'est bon à entendre par nos enfants. Ces histoires de réussite aussi, d'invention. C'est beau, ça fait briller la France également. Hein.
Absolument, absolument. Il y a aussi une très belle histoire que moi j'aime beaucoup, c'est l'histoire de la deux chevaux.
Oui.
Ah, l'invention de la deux chevaux, c'est extraordinaire. On est juste avant la guerre et il y a la direction de Citroën qui demande à un ingénieur de trouver un véhicule qui coûte moins de, je ne sais plus quel est le prix, enfin donc un prix que ce soit accessible aux classes populaires et que ce soit qu'on puisse traverser un champ avec un panier d'œufs sans que les œufs ne soient cassés.
Mmh.
Et donc là on raconte l'histoire de comment l'ingénieur en chef avec son équipe monte cette voiture qui va devenir la deux chevaux et qui va surtout sortir après-guerre, parce qu'en fait, elle devait sortir le 1er septembre 1939, le jour où la France est attaquée. Et donc c'est reporté. Voilà. Mais ça, voilà, ça fait partie de notre patrimoine, quoi, la deux chevaux.
Toutes ces histoires que vous nous racontez, Alfred Violet, nos auditeurs peuvent les retrouver en se rendant sur le site lesroutesdurêve.fr. Les écouter par les canaux que nous avons énoncés, YouTube, Spotify, etc. Jacques Cassard, extraordinaire. En plus, il y a beaucoup de bruitages. Enfin, ça y est, on est à bord d'un navire corsaire. J'avais un peu hésité à le choisir. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Ça, c'est assez... c'est fort. Vraiment, c'est fort, ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez, dans vos perspectives de développement, vous avez aussi l'idée de proposer ça dans des écoles, etc.
Oui, oui, oui. Alors... Là, cet été, c'est vraiment quelque chose pour le grand public. J'ai fait quelques essais dans des classes et ça fonctionne bien. En fait, ça peut être une introduction à un sujet sur, j'en sais rien, moi, le Moyen-Âge. Voilà. Et comme les capsules durent 5 minutes, ben l'enseignant, il reste évidemment à sa place d'enseignant, mais ça peut ouvrir des portes pour avoir ça en début de cours, pour les ouvrir sur telle ou telle période de l'histoire de France.
On peut aller les prendre sur le site. Comment ça se passe? Je me mets dans la peau d'un enseignant qui nous écoute et qui se dit comment je peux les utiliser dans le domaine dans mon école. Dites-nous sur le plan des droits, etc.
Bah écoutez, j'ai pas investigué particulièrement ce point-là, mais aujourd'hui c'est disponible sur YouTube, donc il peut en disposer. Il peut en disposer, absolument.
Ouais. Revenons à cet aspect de transmission, de raconter des histoires, de choisir des supports culturels. Comment avez-vous fait, vous, avec vos enfants? Est-ce que vous avez senti un énorme fossé dans la manière dont vous avez reçu un certain capital culturel, la manière dont vous leur avez fait passer, vous? Et puis peut-être maintenant, puisque vous êtes jeune grand-père, ça m'intéresse d'avoir votre vision sur le temps long, sur 3 générations.
Bah écoutez,
même 4 d'ailleurs.
Ce qu'il y a de certain, c'est que moi j'ai été papa au début des années, à la fin des années 90. À cette époque-là, il y a des téléphones, mais ils sont pas encore smart. Hein, ils seront smart qu'à partir de la fin des années 2000. Et donc il y a Internet évidemment, mais il y a pas, voilà, l'offre est beaucoup moins importante. Et moi, ce que je vois chez mes enfants qui sont parents, c'est que même si leurs enfants à eux sont encore jeunes, puisqu'ils ont 3 ans pour les plus âgés, ils savent déjà que c'est un combat qu'il va falloir mener. Ils ont une grande méfiance à l'égard des écrans et à l'égard des smartphones. Ils savent aussi que c'est une exigence qui va commencer par eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, s'ils sont tout le temps rivés à leur téléphone, ce sera plus compliqué. Donc pour eux, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Après, effectivement, il faut proposer des contenus alternatifs. Je pense qu'un geste qui est vraiment à bannir, c'est de donner son téléphone à ses enfants pour avoir la paix sans regarder ce qu'ils vont suivre dessus. Essayer de garder le goût de la lecture, leur lire des histoires, leur donner des livres le soir. Et comme je pense quand même que ça va être difficile de les exclure totalement de tout ce qui est audiovisuel, essayer de passer du temps déjà à choisir avant eux et à filtrer, ce que vous faites d'ailleurs, je crois, par ailleurs. Essayer d'être un peu sélectif et d'être encore plus vigilant qu'il ne le fallait l'être il y a 30 ans. Ça, c'est sûr.
Et pour vous, ce moyen de transmission qu'est le livre n'est pas mort?
Non. Je pense qu'il n'est pas mort, mais effectivement, il va peut-être se placer dans un écosystème avec le poids de la recommandation qui va devenir de plus en plus fort. Il peut y avoir aussi des liens entre de l'audiovisuel et des livres. Moi, je sais que, par exemple, là, il y a des histoires où je me dis... c'est vrai que derrière, le côté pour en savoir plus, mettre une ou deux références de bouquins un peu solides sur le sujet, ça peut avoir du sens. Je pense qu'on va probablement moins lire, mais on va lire des livres qui nous auront été recommandés par des canaux dans lesquels on a confiance. Alors que ce soit médias, que ce soit familiaux, amicaux, ça va se transformer. Je pense quand même qu'on va moins lire. Il y aura moins de livres.
Si nos auditeurs nous écoutent, ont été se promener sur le site Les Routes du Rêve, ont découvert toutes ces petites capsules audio que l'on peut écouter au fil de la route en se rendant à Lyon, à Marseille, à Nantes, on a évoqué toutes les routes, et se disent et ont des suggestions à vous faire, vous êtes preneur?
Bien sûr. J'ai donné mon adresse email.
Comment vous travaillez d'ailleurs pour développer tout ça là en ce moment?
Alors, aujourd'hui, on est surtout dans une phase de promotion, que je commence d'ailleurs tout juste cet
Merci
été.
Merci de commencer par le Libre Journal de la Transmission.
Mais je vous en prie, on est rentré en contact de façon un peu étonnante.
J'en suis ravie, vraiment. Je suis tellement heureuse de partager avec les auditeurs cette trouvaille.
Ouais, c'est gentil. Et donc, je ne sais plus quelle était votre question.
La question, c'est comment travaillez-vous là? Vous dites que vous êtes beaucoup sur la communication, vous ne pouvez pas être partout.
Et en fait, c'est la production audiovisuelle. Vous avez en fait des moments où vous avez des équipes qui sont larges, le moment où on écrit ou on enregistre. Et puis des moments où on est plus restreint. Là, aujourd'hui, c'est une phase de promotion dont je m'occupe. Et si, effectivement, cet été, le succès est au rendez-vous, il va falloir probablement réactiver une équipe d'abord d'auteurs. Donc moi, que je passe aussi beaucoup de temps à travailler sur les choix éditoriaux, donc des angles et des sujets. Après que je monte une équipe pour co-écrire avec moi. Et une fois que tout ça sera fait, qu'on passe à la phase 2, qui est la phase d'enregistrement. On n'a pas encore de planning très établi, parce que ça dépendra un petit peu de...
Donc il n'est pas impossible, chers amis auditeurs, que nous reparlions des routes du rêve dans les mois qui viennent, et peut-être en sollicitant une aide matérielle.
C'est possible.
C'est possible.
Ouais.
Moi, je pense que c'est tellement, tellement utile, tellement crucial. Je ne sais pas comment vous allez trouver votre équilibre économique, mais ça peut tout à fait reposer aussi sur, sur une participation.
Absolument.
Ouais. Alors donc, on a les routes de l'Est à découvrir, ça on l'a bien compris. Il va falloir aller à Strasbourg, il va falloir monter.
Absolument.
Et va peut-être falloir aller à Lille. Non, Lille, vous l'avez déjà.
Non, on
n'a
pas
encore.
Lille. Non, le Nord et l'Est sont les grands, les grands sujets à traiter maintenant. On aura La Fontaine, on aura le général de Gaulle. Enfin, il y a plein de choses.
Beaucoup de matière.
Ouais.
Ouais. Et racontez-nous les retours que vous avez eus. Vous avez peut-être eu dans le passé des familles qui vous ont dit, bah voilà, nous, on a complètement changé nos habitudes.
Alors, une des choses qui me touche beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a relancé tout ça il y a quelques semaines, c'est que des trentenaires m'ont dit, ou des parents de trentenaires m'ont dit, alors soit les trentenaires m'ont dit, écoutez, moi, je voudrais les réentendre, soit des parents qui me disent nos enfants qui ont 30 ans se lancent des répliques des roues de malin, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça, et qui, ils échangent, ils se font des citations entre eux.
Alors,
je me suis dit, ça veut dire quelque chose quand même, ça veut dire qu'effectivement, je ne me rendais absolument pas compte de ça. Je me disais un peu la solitude de l'auteur en se disant... Et en fait, quand vous avez ce genre de choses, vous dites, ça ne peut pas s'arrêter. Quoi. Vous ne pouvez pas ne pas mettre ça à disposition des générations qui arrivent.
Donc, Alfred Violet, vous-même, vous êtes auteur et producteur. Auteur, c'est votre travail. Vous êtes historien aussi à la base ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Non. J'ai fait des études de commerce et j'ai toujours eu une grande passion pour l'histoire. Enfant, je lisais beaucoup les Historia.
Le
magazine Historia, ça avait un format qui, vous aviez sur 3-4 pages une anecdote, et c'est un peu, j'ai été nourri à ça, puis les contes et légendes, et c'est vraiment ce type de format. Je me dis, mais je veux pas faire 20 minutes ou une demi-heure, indépendamment du fait que économiquement c'était compliqué, mais je voulais faire des choses courtes pour faire quelque chose d'un peu populaire pour des gens qui ont envie de, comme ils regardent leur série télé, ils ont envie d'avoir des histoires courtes. On n'a pas forcément envie de rentrer dans le grand monde culturel peut-être un peu élitiste, en tout cas au début.
Écrasant parfois.
Exactement.
On se dit non, tout ça, c'est pas fait pour moi. Alors
exactement.
Que là, en 5 minutes, hop, on suscite, c'est une étincelle.
Exactement.
Exactement.
Si demain, les gens vont se dire je connaissais pas cette histoire sur Nicée Fournier, parce qu'ils disent effectivement je vais aller visiter le musée ou je vais lire un bouquin là-dessus, mais on a gagné, quoi. Si on multiplie ça par 60, effectivement, casser ce mur entre l'espèce de culture très très impressionnante, et ça, moi, je l'ai vécu, je pense que tout le monde le vit, ce côté, oui, mais lui, il est cultivé, oui, mais lui, il sait plein de trucs, alors qu'en fait, quand vous dites, pour des grands spectacles, on apprend plein de choses, mais personne nous donne de leçons, c'est beau, c'est la culture populaire au sens premier du terme, et très noble. Quoi.
Merci d'avoir parlé du beau aussi, parce que dans tous ces canaux de transmission, parfois il y a des choses qui sont bonnes, elles sont intéressantes, etc., mais on néglige un peu l'esthétique. Là, vous faites très attention, il y a ces belles voix, il y a tout ça, c'est un aspect très important.
Oui, vous avez raison, c'est essentiel, parce que si on veut raconter des histoires, il faut que les textes soient, si possible, bien écrits, qu'on ait effectivement des bons comédiens. J'ai pas parlé des musiques, et on a des musiques qui sont des musiques originales, créées par Olivier Deleuven, que je salue ici. On a tout ça qui et derrière, j'espère qu'on aura aussi de la belle image. Et effectivement, le beau dépasse les clivages, dépasse les frontières. Tout le monde est capable de reconnaître quelque chose de beau, que ce soit un beau sentiment, que ce soit effectivement une belle phrase. J'espère qu'on parlera un peu de Michel Galabru et des histoires qu'on fait raconter à Michel Galabru sur la Provence, parce que on a essayé, je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas on a essayé.
Il y a le sel,
Ce jour-là, le Mistral balayait la Provence dans une sarabande de parfums. Et bon, je vais pas mis Michel Galabru, mais voilà. Il y a une olive qui parle avec un cochonnet. Vous avez un enfant qui rencontre un santon parce qu'il s'est perdu. Voilà, on fait parler Alphonse Daudet sur la beauté d'Avignon du temps des papes. Paul Cézanne, une belle rencontre aussi avec un jeune admirateur. Et voilà, effectivement, des choses positives. Je pense que nous, on en a tous ras-le-bol d'ouvrir d'ouvrir la radio sur des catastrophes en permanence. Là, vous n'aurez pas de catastrophe. Il n'y a que des choses qui sont belles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est notre monde de tous les jours, mais un peu, l'été notamment, c'est bien de sortir de ça et de se pencher sur d'autres choses un peu plus positives.
Et on nourrit l'imaginaire de nos enfants tout en les ancrant dans l'histoire de leur pays. Un grand, grand merci, Alfred Violet, d'être venu nous donner mais tellement envie de parcourir ces routes du rêve. Lesroutesdurêve.fr, chers amis, vous trouverez de quoi alimenter les conversations, nourrir vos enfants, vous-même. Moi, j'ai hâte de partir, je dois dire, pour écouter tout cela sur les routes des vacances. Et puis, partagez, faites connaître. On a dit tout à l'heure, c'est un partage de bons plans. Faites-le parce que voilà, ça marche comme ça. Et vous avez besoin, on l'a compris, Alfred Violet, de lancer cette belle machine. Merci d'être venu au micro de Radio Courtoisie pour ce démarrage.
Merci de votre invitation.
Vous venez d'entendre le libre journal de la transmission dirigé par Valérie Daubigny. Émission préenregistrée le 17 juin 2026 et diffusée pour la première fois le lundi 20 juillet 2026 de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.